Bienvenue dans le podcast de Steve Aldeman, la littérature au 7e ciel.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast de Steve Aldeman. Aujourd'hui, je continue la série des épisodes que je consacre aux auteurs, et en particulier, je vous propose d'approfondir le podcast que j'ai réalisé concernant la correction des romans en abordant le thème des bêta-lecteurs. Pour vous en parler, je serai accompagné par deux d'entre eux. D'abord, Lynn.
Bonjour tout le monde.
Et Renaud.
Bonjour.
Voilà, donc un bêta-lecteur, c'est une personne qui lit un livre avant qu'il soit publié afin d'en dénicher les imperfections, aussi bien sur le fond comme des incohérences de scénario, que sur la forme comme des tournures de phrases lourdes ou inappropriées. C'est un travail qui se fait quand le livre a déjà été bien corrigé par l'auteur. En général, on parle d'alpha-lecture s'il s'agit de relire le premier jet, le tout premier jet d'un roman. Donc on va commencer, enfin je vais vous commencer par vous demander de vous présenter, hein, en commençant par Lynn, honneur aux femmes.
Alors moi, Céline, je suis au crépuscule de mes 26 ans et je suis masseur kinésithérapeute de profession. Je baigne dans la bêta lecture depuis 2019, on va dire officiellement, parce que officieusement, quand j'ai commencé à écrire il y a une douzaine d'années, voire 13 ans, je m'étais assez vite pris d'affection pour tout ce qui est critique et analyse d'œuvres de fiction, qu'il s'agisse de séries, de films ou de livres, et j'avais déjà une petite réputation sur certains sites pour jeunes auteurs. Et c'est en 2019 que ça a vraiment pris un tournant plus sérieux parce que je m'étais inscrite sur 404 Factory, qui est une plateforme d'écriture comme peut l'être Wattpad, Fixia, l'Atelier des auteurs ou encore Plume d'argent. Donc ce sont des plateformes où les auteurs postent leurs chapitres les uns après les autres. Et en gros, ce qui s'est passé, c'est que c'était une période où on va dire je me sentais seule, entre guillemets. Et je voulais interagir avec des gens et ça s'est fait via 404 Factory, parce que je m'étais dit que j'allais m'en servir comme un réseau social parlant d'écriture. Et de fil en aiguille, mes petites critiques que je faisais quand j'étais adolescente se sont étoffées jusqu'à devenir les fiches de lecture que j'ai maintenant. Et depuis, je poursuis la bêta lecture, soit via des annonces sur des groupes Facebook dédiés à la bêta lecture ou plus généralement à l'écriture, comme le groupe des Tipoteurs. Et sinon, je prends les demandes que me font mes camarades de plume rencontrés au gré de mes pérégrinations sur Internet.
D'accord. Et alors, comme ça, combien de livres tu as lus?
Alors, à la louche, je vais dire une quarantaine. Mais en fait, c'est assez difficile à dire parce qu'il y a des auteurs qui postent en ayant déjà fini leur histoire et il y en a qui postent en écrivant au fur et à mesure. Et il y en a d'ailleurs, dans ceux qui écrivent au fur et à mesure, qui terminent jamais.
Plusieurs dizaines de livres, en tout cas.
Oui, largement.
Ce qui fait un sacré travail, un sacré temps passé dessus.
Oui.
Maintenant, je vais te demander de te présenter, Renaud, à ton tour.
Alors moi, je m'appelle Renaud. Je suis retraité hein, depuis pas très longtemps, mais enfin quand même suffisamment quelques années. Et j'ai commencé la bêta lecture en rencontrant une maison d'édition, une petite maison d'édition qui démarrait dans ma ville. La personne qui se lançait dans ce projet était complètement débordée parce qu'elle avait demandé des textes sur Internet. Et donc, j'ai fait des fiches de lecture pour l'éditeur, mais c'était pour une éditrice, pardon, et pas pour les auteurs. Ce qui m'a permis de dire un peu ce que je pensais réellement du texte, puisque les auteurs n'avaient ma fiche de lecture qu'à partir du moment où leur texte était accepté. Ça a duré un an et demi, et là, je lisais, je ne sais pas, 20-25 livres par mois, mais au bout de 50 pages, on juge un livre au bout de 50 pages s'il est publiable ou non.
D'accord, 20 à 25 livres par mois, oui, c'est une vraie
Oui, ah oui,
activité
non,
à temps
mais...
plein, hein.
Non, je suis à la retraite, mais c'est surtout le fait qu'en 50 pages, on sait si on peut publier ou pas.
D'accord, dans le sens où tu arrêtais au bout de 50 pages quand tu
Ah oui,
savais
je,
que
moi,
c'était
je...
pas publiable. D'accord.
Ah ben oui, si c'est pas publiable parce qu'il y a trop de travail à reprendre sur le livre, ou si carrément les propos ne sont pas publiables. L'auteur est libre de raconter ce qu'il veut. La maison d'édition, elle, juridiquement parlant, elle peut être attaquée pour des propos diffamatoires, pour des propos injurieux, etc. Hein.
D'accord, ce qui est aussi le cas de figure qui peut se présenter, auquel je n'avais pas pensé.
Ah non, mais la maison d'édition Et juridiquement est aussi responsable qu'un auteur, quoi.
Alors ça, je le savais, il n'y a pas de souci.
Oui,
Mais ce qui
oui,
m'étonnait,
oui.
c'est qu'on puisse tomber aussi facilement que tu as l'air de le dire sur des auteurs qui se lâchent.
Il y a de tout.
D'accord.
Parce que moi, personnellement, j'estime que aider un auteur, je n'ai pas à. J'accepte tous les styles, que ce soit des romances, des essais, les gens, ils écrivent. Moi, je demande pas. Je veux surtout pas ça. En général, je préfère pas savoir quel est le résumé de l'histoire, hein.
D'accord, oui, pour pas être influencé à l'avance sur
Ouais.
ce
Ah
dont ça
oui.
va parler. Mais il faut dire
Exactement.
aussi que les auteurs peuvent avoir du mal à présenter et à mettre en avant leur histoire. C'est pas simple d'écrire un synopsis, par exemple, hein.
Mais je sais pas à quoi ça sert un synopsis.
Pour faire simple, c'est le quatrième de couverture.
Ah non, mais c'est la quatrième de couverture, ce n'est jamais l'auteur qui l'écrit, c'est toujours l'éditeur.
Alors, c'est jamais
Non,
l'auteur qui
non.
l'écrit
Non, mais dans une.
quand il est édité à compte d'éditeur. Moi, je suis auto-édité et clairement,
Ah bah
c'est
oui,
moi
non,
qui
mais
l'ai
ça,
écrit.
je suis désolé, oui. Pardon. Les maisons d'édition, j'ai des rapports. Moi, les édités à compte d'auteurs, moi, ce n'est pas des maisons d'édition, pour moi.
Non, je te parle d'auto-édité. Alors,
Ah oui,
on
ah
va
bah,
refaire un panel
auto-édité.
pour les auditeurs, mais
Merci.
il y a les maisons d'édition à compte d'éditeurs qui donc ne demandent aucune avance et qui prennent en charge la totalité du travail d'édition, de publication. Il y a les maisons d'édition à compte d'auteurs qui, elles, reviennent, hein, pour faire très simple, hein, à des imprimeurs, hein, qui proposent à des auteurs d'imprimer leurs livres, mais c'est eux qui vont faire tout le travail, hein, derrière, et en particulier le chercher à vendre. Et puis il y a aujourd'hui maintenant avec des nouvelles solutions d'auto-édition, ce qu'on appelle donc l'auto-édition, qui permet à un auteur de faire tout ou partie du travail que l'éditeur à compte d'éditeur faisait auparavant. Voilà. Donc il se trouve que je suis auto-édité, c'est un choix de ma
D'accord.
part, hein.
D'accord.
J'aurais pu être édité. Voilà.
Mais alors, à ce moment-là, je conseille à l'auteur de prendre une tierce personne pour faire sa quatrième de couve.
Ce qui peut être un choix, effectivement, aussi, de la même façon que de
Et
toute
parce
façon, il a intérêt à s'entourer pour tout ce qui est correction
que. Oui.
orthographique, grammaticale, typographique et compagnie. Un auteur auto-édité, ce n'est pas forcément quelqu'un qui travaille et qui fait tout seul, parce qu'en général, on n'a pas toutes les compétences. En l'occurrence, j'ai fait corriger, évidemment, mon livre par quelqu'un d'autre et je l'ai également fait bêta-lire. Donc il y a une question que j'avais envie de poser à Aline, pour rentrer un petit peu dans le détail du travail, de votre travail en pratique, c'est comment est-ce que toi tu choisis tes auteurs? Les auteurs que tu vas aider, que tu veux lire, est-ce que tu as un style que tu préfères, un type d'histoire?
En vrai, il y a justement quelque chose que la bêta lecture m'a apporté, c'est que ça m'a fait lire différents styles par rapport à ce que je lisais, on va dire, pour mes lectures personnelles. Après, je dis pas que je me fais pas influencer par le synopsis, mais je pense que je suis assez libre sur mes critères de sélection. Après, des fois, c'est très abstrait, mais des fois, c'est même ne serait-ce que, comment dire, quand un auteur va se présenter, que ce soit sur un groupe Facebook ou que ce soit sur une plateforme comme 404 Factory, où les gens vont mettre des informations sur eux, sur leur profil, bah, des fois, je sais pas, entre les lignes, il peut y avoir des gens qui me touchent plus que d'autres. C'est pas forcément facile à décrire. Je peux juste dire que sur les plateformes d'écriture, j'avais un critère de sélection qui était que je voulais aller là où il n'y avait personne. Parce que comme mon but, c'était quand même d'interagir avec des gens, ben j'ai envie de dire qu'une ampoule, elle brille mieux dans le noir qu'au milieu de 1000 autres ampoules. Du coup, ben moi, je voulais aller là où on avait besoin de moi, et a priori, on avait besoin de moi là où il n'y avait personne.
D'accord, c'était une jolie métaphore. Ce qui fait que implicitement, tu dis bien que malgré tout, il y a une forme de choix, dans la mesure où en plus tu n'es pas comme Renaud, tu ne travailles pas au service d'un éditeur, à compte
Alors,
d'éditeur, quelque part c'est un peu différent. Oui, Renaud?
oui, j'interromps parce que j'ai fait ça pendant 2 ans et depuis 2 ans, j'ai arrêté avec la maison d'édition parce que je n'étais pas payé, hein, c'était bénévole. Et je trouve que c'est plus intéressant d'adresser directement aux auteurs les fiches de lecture que je faisais aux maisons d'édition.
Parce
Bah,
qu'il y
à
avait
la
le
maison.
contact avec l'auteur.
Il y a le contact avec l'auteur, il y a le retour, il y a les discussions possibles. Et surtout, l'auteur sait ce qui ne va pas dans son texte. La maison d'édition ne fournit pas la fiche de lecture. Elle envoie un mail en disant le texte ne correspond pas à la maison d'édition, mais elle n'explique jamais, elle ne fournit pas mon travail à l'auteur.
D'accord. Mais ce qui peut s'expliquer, ça, quelque part, tu vas peut-être compléter, vous allez peut-être tous les deux compléter mon analyse, mais ce qui peut s'expliquer dans la mesure où, d'abord, elle n'a pas d'obligation vis-à-vis de l'auteur, et comme tu l'as dit toi-même, ils reçoivent énormément de manuscrits, et ensuite, elle n'a pas forcément intérêt. Enfin, disons que fournir une fiche de lecture sans explication derrière, sans retour d'un auteur qui va forcément être curieux, voire fâché des critiques qu'on fait sur son livre, parce que c'est pas simple de recevoir des critiques de son livre, hein, c'est pas toujours simple. Elle n'a pas intérêt à se fâcher avec un auteur qui pourrait revenir, qui va avec le temps peut-être se bonifier, qui va écrire mieux, qui va en apprendre pas mal. Mais effectivement, le contact avec l'auteur peut être plus intéressant quand on est bêta lecteur.
Oui, bah oui, c'est quand même plus agréable. On n'a pas l'impression de travailler pour, j'allais dire, pour rien.
Oui.
Parce que vraiment, la maison d'édition, on passe, je sais pas, 10-12 heures sur un livre, et on n'a pas forcément tout lu. Et à ce moment-là, la maison, l'éditrice dit, bah non, je le prends pas ce livre parce que ça me plaît pas, parce que je suis pas le seul à lire ce livre. Donc, la majorité des bêta-lecteurs de la maison d'édition ont dit que ça n'a aucun intérêt, donc on laisse tomber. Le temps que j'ai passé et le travail que j'ai fait ne sert à rien.
Lynn, toi, tu n'as jamais travaillé pour une maison d'édition. Ça ne...
Jamais. Autant j'ai déjà travaillé pour des auteurs qui se sont publiés, que ce soit enfin, principalement en auto-édition, mais justement, bah, j'ai quand même un auteur qui est publié, enfin, qui va être publié par sa maison d'édition, enfin, touche du bois pour que son bouquin soit publié cette année, parce que ça fait 2 ans qu'il a fait son contrat. Mais non, j'ai jamais eu à travailler pour des maisons d'édition. Par contre, là où je pense que je vois où Renaud veut en venir, c'est que moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé de faire une bêta lecture pour un bouquin, et puis après, l'auteur vient me revoir quelques mois, voire même 2 ans après, et me demande de revoir à nouveau ce bouquin. Et c'est assez rigolo, du coup, de voir, ah, bah ça a été modifié, ça n'a pas été modifié, et on voit mieux l'impact de ce qu'on fait, alors que ben, finalement, Renaud qui donne une fiche de lecture à un éditeur, ben, ok, ça donne des infos à l'éditeur, mais c'est vrai qu'il ne peut pas forcément se rendre compte de l'impact qu'il aura eu sur un auteur, et c'est peut-être ça qui le fait se questionner sur l'utilité de son travail.
Oui, clairement. Bah, c'est moins satisfaisant, forcément.
C'est ça.
Par contre, moi, je suis incapable de refaire une lecture sur un livre que j'ai bêta lu.
Pourquoi?
Parce que si je relis le même texte, c'est-à-dire le même sujet, le même fond, le même auteur, c'est plus une bêta lecture, c'est une deuxième lecture.
Alors, la première lecture, comme on le disait en introduction, c'est ce qu'on appelle l'alpha lecture, mais l'alpha lecture, effectivement, pour bien comprendre, c'est vraiment la lecture juste après la fin du premier jet, sans correction de l'auteur, c'est vraiment le tout premier jet, et en général, c'est pas très agréable à lire par ailleurs.
Personnellement, la définition que j'ai de l'alpha lecture, c'est plutôt le fait d'accompagner l'auteur alors qu'il est encore en train d'écrire, c'est-à-dire qu'on l'accompagne chapitre par chapitre.
D'accord, alors ça, c'est quelque chose que je connaissais pas.
Ah si, c'est un alpha lecteur, parce que moi, bêta, il faut que le texte il soit fini, hein.
C'est ça, normalement, le bêta
Ah,
lecteur,
c'est
c'est
là.
qu'on public test pour un manuscrit terminé, en fait.
La littérature évolue. C'est-à-dire que l'alpha lecteur arrive parce que les sites comme Wattpad existent. Wattpad, l'auteur met chapitre par chapitre, toutes les semaines, rajoute un chapitre. Et comme en général, il ne relit pas ce qu'il a écrit avant, il a tendance à se répéter, à dire les mêmes choses. L'alpha lecteur travaille chapitre par chapitre. Il n'a aucune vue d'ensemble, parce que moi, j'ai trouvé des contradictions. À la page 20, je vais donner un exemple tout simple. Page 20, le chat s'appelle Fast, et page 250, le chat s'appelle Furious. Fast and Furious, le film, c'est le
Oui,
film. Non,
j'avais bien compris.
on comprend la chose, mais il faut se souvenir. Donc, le bêta lecteur doit s'être concentré suffisamment pour se dire, mais attends, le chat, il s'appelait Fast au début du livre. Alors, les exemples très simples, c'est pour un bêta lecteur qu'on ne peut pas voir si on fait de l'alpha lecture chapitre par chapitre, c'est par exemple les calendriers et les dates. Moi, j'ai quand même quelqu'un qui ose écrire, qui déplace, genre qui dit Woodstock s'est passé tel jour à telle année, Et en fait, ben non, Woodstock s'est passé un mois avant.
Oui.
C'est un exemple, hein. Ce sont des exemples où le bêta-lecteur, non, je suis obligé de corriger, là, je suis obligé de dire que ça, c'est pas possible. Et alors, en général, quand je tombe sur une énormité comme ça, moi, au bout de 50 pages, j'arrête, hein. Je dis non, non, c'est pas la peine. L'auteur n'est même pas allé chercher sur Internet les dates exactes, les calendriers de l'année où il raconte l'histoire.
D'accord. Mais alors là, on voit bien la différence entre l'alpha lecture et la bêta lecture, dans le sens où on ne peut pas reprocher ça en étant alpha lecteur, puisque précisément l'histoire se construit, ou même si elle est terminée, il n'y a pas eu de travail de peaufinage du livre, alors qu'en bêta lecture, on est censé avoir un livre bien avancé par l'auteur, ou en tout cas il a fait son maximum, parce que précisément c'est l'étape à laquelle il envoie à l'éditeur. Un livre. Donc, envoyer un livre à un éditeur qui est pas sur lequel on n'a pas fait son maximum, sur lequel qu'on n'a pas bien relu et plusieurs fois si possible, c'est quand même un peu.
Vous n'avez aucune, pas vous, quand je dis vous, c'est Steve et Lynn, vous n'avez aucune idée de ce que les maisons d'édition reçoivent comme texte. Il y
Alors
a
si,
tout.
j'ai une idée, mais justement,
Oui, non, mais il y a tout.
ça doit les aider
Tout à fait.
à
Il y a tout.
sélectionner.
Mais il y a quand même une grande majorité, il y a 50% de textes qui n'ont même pas été relus par l'auteur. C'est-à-dire que l'auteur a écrit, il a été content de son œuvre, bah, il a pris par exemple sur Wattpad, il a écrit 50 chapitres. Une fois qu'il a ses 50 chapitres, il rassemble tout, il envoie une maison d'édition en disant j'ai écrit un livre.
Oui, d'accord.
Alors que Wattpad, ça n'est pas de la littérature. Wattpad, c'est une manière d'écrire. C'est comme si on comparait l'écriture cinématographique à l'écriture littéraire. Wattpad, ça n'est pas de la littérature, ça n'est pas un livre. C'est une manière d'écrire qui est nouvelle, qui existe depuis 5 ans, enfin depuis 10 ans, depuis l'ordinateur. C'est une façon d'écrire, mais ça ne fera jamais, un texte Wattpad ne fera jamais un livre sans avoir été corrigé, sans avoir été repris, hein, on est d'accord.
Alors en ça, je dirais quand même que ça dépend parce que comme j'ai dit, bon, après j'ai assez peu côtoyé Wattpad. Moi, ma plateforme était encore un peu différente, sachant que chaque plateforme d'écriture va attirer un public différent, ouais. Mais il y a des gens qui justement ont préparé leur manuscrit en amont. Justement parce que c'est plus facile d'avoir un rythme régulier quand on a des chapitres d'avance, voire quand on a déjà fini le livre, et qui vont choisir de publier un chapitre par semaine parce qu'on est obligé de mettre les chapitres les uns après les autres. Enfin, moi, c'est déjà arrivé que je tombe sur des gens qui en vrai avaient déjà d'avance, avaient fini leur manuscrit. C'est juste que sur le moment, c'est pas facile de faire la différence. Mais avec l'expérience, on les repère, les auteurs qui avaient pris de l'avance et ceux qui publient à l'instant.
Oui. Alors ça m'est arrivé à titre personnel, c'est-à-dire que j'ai effectivement publié, je suis en train de publier un roman qui est déjà terminé depuis longtemps, à raison d'une partie par semaine. Mais là, la démarche de l'auteur est pas forcément tout à fait la même. C'est-à-dire qu'il se dit peut-être que Wattpad va être une possibilité non pas d'écrire ou de s'aider à écrire, mais de faire la promotion de son ouvrage.
Oui.
Voilà,
Après,
ça.
faut aussi. Exactement, bah, comme je le disais, ces plateformes d'écriture, ça reste des réseaux sociaux, en fait. C'est juste que c'est bon, c'est pas aussi ouvert que Facebook, quoi, mais l'idée, c'est effectivement, surtout que Wattpad, qui est la plus grosse plateforme d'écriture qu'on ait, peut permettre effectivement à un auteur de se faire de la pub, d'attirer une autre audience qu'il n'aurait pas attirée avec YouTube, Facebook ou Instagram.
D'accord. Alors pour continuer cette émission, je voudrais revenir sur une remarque que m'a fait Renaud quand on a préparé l'émission. Renaud, quand on s'est parlé au tout début, tu m'as dit, avec les auteurs, ou quand je fais les fiches de correction, je ne suis pas bienveillant.
Ah oui.
Alors est-ce que tu veux expliquer ça et après je donnerai mon point de vue?
Alors, ce que j'avais dit, je me rappelle t'avoir dit, est-ce qu'on était bienveillant, est-ce qu'on, quand on remettait une copie à l'école, hein, pardon, je précise, à l'école, est-ce que quand on remettait une copie d'un exercice qu'on devait faire pour les professeurs, est-ce qu'on demandait au prof d'être bienveillant? Non. Alors, c'était pour t'expliquer ce que je t'avais dit.
Oui.
Un bêta-lecteur n'est pas là pour être bienveillant, il est là pour aider. Et un auteur est depuis tellement longtemps avec ses personnages, depuis tellement longtemps dans son idée, qu'il faut un peu le bousculer dans ses habitudes, il faut un peu le titiller pour qu'il se rende compte que moi, lecteur, Ben, je comprends pas, je comprends pas le monde dans lequel il est.
Et alors, je t'avais répondu quelque chose avant qu'on aille plus loin. Je t'avais répondu que, au contraire, je trouvais ça très bienveillant. Et j'avais remarqué ça un petit peu, ce que je constate, moi, un petit peu une évolution de notre société qui considère que la bienveillance, c'est de surtout pas critiquer. Ce qui est, à mon avis, une erreur fondamentale. Apporter les bonnes critiques à un auteur qui en a besoin pour qu'il s'améliore, c'est vraiment bienveillant, bien au contraire. Alors après, il est capable de les entendre ou pas. Ce qui peut varier suivant son parcours, on va dire, hein. Les jeunes auteurs qui débutent peuvent avoir du mal à entendre ça et je peux le comprendre. Je donnerai mon point de vue après là-dessus en tant qu'auteur. Ça fait 15 ans que j'écris maintenant. Mais au contraire, c'est bienveillant. Mais effectivement, maintenant, on est dans une société qui considère que la moindre critique peut ne pas être bienveillante, ce qui est à mon avis tout l'inverse. J'ai besoin. Moi, en tant qu'auteur, quand on me parle de mes livres et quand je m'adresse à un bêta lecteur, qu'on me dise est-ce qui va pas?
Oui, mais je pense que les auteurs, enfin le bêta lecteur touche à l'intime de l'auteur. Un livre, c'est vraiment comme un enfant hein, pour l'auteur.
Ah ben c'est le bébé de l'auteur, hein, c'est
On est
clair.
d'accord. Donc le bêta lecteur, lui, l'auteur a l'impression que le bêta lecteur va le juger sur ses rêves, sur ses ambitions, sur sa propre personnalité. Or, le bêta lecteur, lui, il juge des personnages. Il juge une histoire. Il juge, alors juger, c'est peut-être pas le mot exact, mais il va dire, je ne comprends pas ceci, cela. Et là, l'auteur se sent mais agressé. Moi, j'ai 20% des auteurs qui, quand ils reçoivent leur fiche de lecture, m'insultent. Hein.
Ah oui, carrément, ouais. Les gens, ils
Ah bah
sont...
oui. Ah bah, ils sont, alors d'abord, ils ne sont pas contents parce que j'ai tenu 20 pages et qu'au bout de 20 pages, je leur dis, non, mais... Alors... Je rentre après dans une autre catégorie. Moi, dès que je me pose la question, pourquoi est-ce que l'auteur écrit? Parce qu'au bout de 20 pages, je me dis, mais ça m'arrive d'être là, de dire, la raison pour laquelle quelqu'un écrit est aussi importante que le sujet qu'on aborde ou la manière dont on raconte l'histoire, dont on écrit. Le pourquoi est-ce que l'auteur écrit, pour moi, est aussi important que ce qu'il écrit. Et là... Le problème, c'est que pour moi, un auteur doit avoir quelque chose à transmettre. Il doit raconter quelque chose. Et dans la manière de raconter, il y a trois choses. Il y a la narration, les descriptions et les dialogues. Et d'une manière très étrange, la littérature à l'heure actuelle a évolué. On n'a plus que de la narration. On fait bouger les personnages, mais on n'explique pas d'où ils viennent et comment ils sont arrivés. Beaucoup d'auteurs donnent un statut social au personnage, dit tiens, voilà, mon personnage a 23 ans, 24 ans, il est avocat, c'est un grand avocat. Mais en France, il faut savoir qu'on passe le bac à 18 ans et qu'il y a 7 ans d'études pour être avocat. Donc, on ne peut pas être un grand avocat célèbre à 23 ans. On est encore dans ces études. Il y a des gens qui écrivent, ou alors à cause des téléfilms à la télévision, hein, qui disent oh ben, un petit jeune qui a 23 ans, il est agent secret, quoi. Comment est-ce qu'il a été formé, d'où il vient? Non, non, ben non, c'est son statut. Je c'est pas gentil. Hein, et ça, moi, je peux pas, je ne peux pas. J'ai un blocage intellectuel, alors c'est peut-être parce que je suis un peu vieux, parce que je suis à la retraite, mais j'ai un blocage intellectuel qui fait que je ne peux pas. Accréditer et dire, oh oui, vous avez raison. Et là, je suis pas bienveillant parce que c'est pas forcément gentil le ton sur lequel je dis les choses.
Alors
Bah,
après, il y a une...
justement, personnellement, je vois ça comme deux choses différentes parce que en soi, étymologiquement, bienveillant, ça veut dire vouloir le bien de quelqu'un, en gros. Et en soi, justement, on peut vouloir le bien de quelqu'un sans être gentil, on peut être bienveillant en étant dur avec quelqu'un et c'est pas une mauvaise chose. Un prof et des profs qui peuvent être très durs, ça n'en fait pas des profs malveillants. C'est
Mais alors,
deux choses à différencier.
ce que tu dis, Lynn, n'est pas dans l'air du temps, on va dire. Hein.
Oui, mais ça, c'est encore une autre question.
Oui. Bon, enfin, c'était une précision qui me paraissait intéressante. Alors après, par rapport à ce que tu disais, Renaud, il y a une chose qui, moi, m'interpelle, c'est-à-dire que l'agent secret à 23 ans, Si on veut être réaliste, effectivement, ça tient pas la route.
Oui.
L'avocat à 23 ans, ça tient pas la route. Maintenant, il y a aussi une espèce de, enfin, il faut tenir compte de la cohérence du scénario. Si on écrit du fantastique, j'ai envie de dire, on peut se permettre un petit peu ce qu'on veut.
C'est le problème, tu viens de le dire, à partir du moment où c'est bien expliqué. En général, le problème, c'est que le statut social est posé par l'auteur, mais il n'explique pas comment son personnage est devenu ce qu'il est. Il l'explique pas. Il dit, bah, il est ça, il est ceci, il est cela. Et moi, j'ai un autre truc qui, en général, est terrible. C'est dans les, dans toutes les, dans tous les filles, dans tous les livres, pardon, au Moyen Âge. Game of Thrones, quoi. Tous les machins qui viennent de Game of Thrones. Il y a des trucs terribles. Il y a des anachronismes sur la technologie. C'est-à-dire que ils se battent avec des épées, ils se chauffent avec le bois et les cheminées et ce machin. Mais par contre, il y a des grandes vitres, il y a des grandes fenêtres. Mais pour faire des vitres et des fenêtres, il faut une technologie que l'époque n'a pas. Et ça, l'auteur, il ne le voit pas. Il n'y arrive pas. Les heures. Alors, il invente un monde, un univers où il y a l'argent, c'est pas de l'euro, c'est pas des francs, c'est des. Je sais rien quoi. Bon, bref, il a inventé l'argent, il invente une certaine technologie, mais alors par contre, les heures, ça fonctionne toujours pareil. Hein. Les minutes et les heures, au bout de 5 minutes. Mais putain, il n'y a pas de montre dans ton. Il n'y a pas de montre dans ton monde. Comment? Je me.
Si on invente une autre, alors moi qui ai écrit de la SF en particulier, si on
Une autre
invente
dimension.
une autre planète, une autre civilisation, des extraterrestres et qu'on dit qu'ils ont toujours les mêmes références que les terriens, c'est sûr que c'est un peu embêtant. Mais ça, c'est un travail, enfin, ça, c'est quelque chose en particulier en science-fiction, ça demande énormément de travail. Moi, je sais que j'ai passé 2 ans à construire mon monde. Avant de commencer la rédaction de mon roman de science-fiction.
Ah oui.
2 ans à y penser tous les jours, hein, parce qu'il fallait que je crée plusieurs planètes, plusieurs espèces, et puis recréer un monde de A à Z, en fait, ça prend énormément de temps. Donc c'est vrai que ce travail-là demande à la fois du temps et demande également un minimum de culture. C'est sûr que si on s'adresse à quelqu'un qui n'a pas beaucoup lu, il y a beaucoup de gens qui se lancent dans l'écriture, mais qui n'ont pas forcément beaucoup lu. Et qui n'ont pas forcément la culture requise pour l'œuvre qu'ils veulent écrire, bah effectivement, ça donne des livres qui sont d'une qualité moins bonne qu'espérée, en tout cas.
Tout à fait. Mais là où tu touches un point essentiel, c'est le temps qu'il faut pour écrire un livre. Je pense que les auteurs ne se rendent pas compte qu'il faut 2 ans pour faire un livre. Eux, au bout de 6 mois, au bout de 3 mois, ils ont écrit leur texte. Et alors, j'en reviens, j'ai l'air d'être rancunier ou de ne pas lâcher mon os. Mais Wattpad, c'est en 3 mois, ils ont écrit 20, 25, 30 chapitres. Ça y est, ils ont écrit un livre. Moi, pour moi, écrire un livre, c'est 2 ans de travail. Hein.
Tout étant que les chapitres sur Wattpad sont plus courts, parce que justement, sur les plateformes d'écriture, étant donné que les gens écrivent pour un public qui va lire sur smartphone et sur ordinateur, on va être sur des chapitres qui vont faire 1 500 ou 2 000 mots en moyenne. Forcément, ça fait des écrits beaucoup plus petits hein, aussi.
Oui. Mais c'est pas limité, sauf erreur de ma part, sur Wattpad.
C'est
C'est
pas
juste que c'est
limité,
les
mais
gens
c'est une
qui écrivent
question de
moins.
confort. C'est une question de confort, en fait, parce que les gens n'aiment pas lire sur écran. Ouais,
Oui.
beaucoup de gens vont vous dire qu'ils n'aiment pas lire sur un téléphone ou sur un ordinateur. En fait, les gens préfèrent le papier. En France, le papier survit encore bien. Et malgré le succès de Wattpad, ben, lisez des chapitres de 6 000 mots sur un écran d'ordinateur, ben, pas sûr que tout le monde soit très content, en fait. Moi, je sais que, par exemple, mes textes sont trop gros pour les. Enfin, mes chapitres, il faudrait que je les divise, en fait. Si je voulais les rendre populaires sur un réseau comme Wattpad, parce que mes
Ouais.
chapitres font entre 6 000 et 10 000 mots.
Sans avoir eu cette réflexion-là, c'est vrai que j'ai divisé certains de mes chapitres exprès, en fait, hein, quand je les ai publiés sur Wattpad, parce que bon, je n'avais pas pensé à tout ce que tu viens d'expliquer, mais oui, ça se tient, effectivement. Enfin, l'aisance à la lecture sur un écran d'ordinateur, c'est pas la même que sur du papier ou que sur une liseuse, parce que maintenant, ils font de très bons produits en liseuse.
Oh, moi, je suis fan des liseuses.
Bon... Bah déjà, accessoirement, bon, on s'égare un peu, mais c'est moins cher déjà un e-book qu'un livre papier.
Aussi.
On parle des auteurs d'une façon générale, mais sur Wattpad en particulier, on peut rencontrer aussi bien des auteurs qui ont, j'exagère, mais 12 ans et qui n'ont aucune expérience de l'écriture et qui vont se lancer à raconter une histoire qui leur plaît. Moi, j'ai eu des enfants à la maison qui ont commencé comme ça. Bon, ils ne l'ont pas fait sur Wattpad, mais ils ont commencé à l'écrire. Bon, évidemment, ça valait ce que ça valait. Hein, quand on est en quatrième et qu'on commence à vouloir raconter une histoire, on n'a aucune idée de ce que c'est qu'un scénario. On a une maîtrise de la langue française qui est souvent approximative encore. Bon, pour autant, je trouve ça intéressant parce que bah, c'est comme ça qu'on commence. Il faut toujours commencer à un moment ou à un autre, déjà et d'une. Et ensuite, je pense que quand on est bêta lecteur, on n'a pas forcément l'information de où en est l'auteur dans son parcours. Est-ce que c'est son premier, son deuxième, son quinzième bouquin? Quelle est sa maîtrise de la langue française? Parce que ça compte quand même si le talent principal d'un auteur, c'est d'imaginer et de raconter une histoire. Voilà. Est-ce que vous connaissez un petit peu le parcours des gens que vous avez en face de vous, ce qui pourrait vous permettre d'adapter quelque part vos critiques ou vos remarques?
Moi, je cherche pas à savoir qui c'est. Le seul problème, pour moi, c'est si c'est biographique, c'est-à-dire si l'auteur a pioché dans ses ressentis, dans ses impressions, et s'il me raconte une histoire qu'il a vécue réellement. Là, je suis un peu embêté parce que dire à quelqu'un, mais attendez, votre histoire ne tient pas debout parce que, parce que, parce que. Il me répond, oui, mais c'est ce que j'ai vécu. Donc, à ce moment-là, je lui dis, alors, très bien, vous l'avez vécu, racontez-le-moi autrement. Et en tant que bêta lecteur, je ne donne jamais de solution. Je dis ça, je ne le comprends pas. Je ne dis pas, faites comme ceci ou comme cela pour que je comprenne. Je dis simplement, votre version, je ne la comprends pas. À vous maintenant, c'est vous l'auteur, c'est pas moi. Moi, je suis bêta lecteur. Je ne suis pas auteur, je vous dis, je ne comprends pas votre manière de me raconter les choses, alors changez, changez tout, réécrivez tout s'il faut, mais faites que je comprenne ce que vous voulez me dire.
Votre démarche s'apparente un petit peu à celle d'un lecteur, tout bonnement, parce qu'un lecteur qui achète un bouquin en librairie, il veut que ce soit parfait, il veut qu'on comprenne l'histoire un minimum. Enfin, on a des attentes très élevées en tant que lecteur, notamment pour ceux qui ont une bonne maîtrise de la langue française. Une faute d'orthographe détectée dans un livre qu'on a acheté en librairie, on a du mal à la pardonner, quoi.
Oui, alors là, je ne peux pas bien dire parce que moi, l'orthographe, je ne suis pas doué. Hein. Je fais des fautes d'orthographe. À moi, je fais des fautes d'orthographe. J'en fais plus que les auteurs hein, au niveau orthographe. Mon
Oui.
travail de bêta lecteur, je ne suis pas correcteur. Un correcteur, c'est quelqu'un. Un correcteur, en général, est même payé. Hein. Moi, je
Oui,
connais
alors c'est un
pas
thème que je
beaucoup
voulais aborder aussi, ça tombe bien, on va en profiter. Quelle
de.
différence y a-t-il, et je vais vous poser la question à tous les deux, quelle différence y a-t-il entre un bêta lecteur et un correcteur?
Là où le correcteur va s'occuper, lui, plutôt de la forme, vraiment les coquilles concernant la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, le bêta lecteur, lui, va plus s'occuper du fond du texte, sa signification. Il va vraiment s'occuper éventuellement du vocabulaire ou de certaines tournures de phrases si ce n'est pas compréhensible, mais son rôle n'est pas forcément de chasser les erreurs de français. Ça va être vraiment le fond.
Et ton point de vue là-dessus, Renaud?
Alors moi, en tant que bêta lecteur, je relève principalement les répétitions, les répétitions qui ne servent à rien. Attention, il y a des répétitions, c'est des effets de style, je les comprends. Il y a un truc qui est insupportable aussi, c'est les phrases sans verbe, hein, les phrases nominales. Ah ben, non mais, non mais, alors c'est pas, non
Alors,
mais c'est.
ce qui me fait sourire, c'est que on sent la motivation,
Non, non mais.
l'implication du bêta lecteur qui est plaisante quelque part.
Non, mais ça me fait. C'est combien d'auteurs mettent des points, c'est-à-dire qu'ils fabriquent, ils construisent leurs phrases, puis après, il y a un point, et puis comme ils voulaient rajouter un petit truc, bah, ils rajoutent ce qu'ils voulaient rajouter, ça fait une phrase, ils rajoutent trois mots, et ces trois mots, mais ils doivent être attachés par une virgule à ce qui était précédemment. Jamais ils doivent mettre un point. Puisqu'à la fin, les trois mots qu'ils ont rajoutés, ça fait une phrase sans verbe. Ça fait un truc qui tombe là par hasard. Alors ça sonne bien quand on le lit, mais ça ne va pas.
Alors, ça me fait sourire, moi, ce commentaire-là, parce que En fait, comme j'ai de la chance et que Rose, ma femme, donc écrit aussi, évidemment, on s'aide bien les uns les autres dans les corrections. Et il y a une chose que vous ne pouvez pas savoir d'emblée quand vous lisez un livre pour faire de la bêta lecture, c'est que vous savez pas d'emblée si vous allez faire de l'alpha lecture ou de la bêta lecture. Ça devrait être de la bêta lecture parce qu'on vous a interpellé en tant que bêta lecteur, mais comme vous le dites bien vous-même, parfois vous récupérez un bouquin, il n'y a pas eu de relecture, il n'y a rien eu, on vous a envoyé le premier jet sans même que l'auteur ait pris le temps de relire ce qu'il avait écrit. Et quand on écrit, il y a une chose qui arrive assez souvent, le premier jet. C'est-à-dire qu'on a tendance à reprendre ses phrases, ou alors à corriger une phrase, une partie de la phrase, mais comme on l'a pas relue parce que c'est le premier jet, on s'aperçoit pas que du coup elle est mal construite, ça va pas avec le reste. Et c'est quelque chose qui arrive fréquemment. Et le genre d'erreur ou de problème que tu notes là peut être lié à ça aussi, au fait qu'il n'y ait pas eu de relecture suffisante de l'auteur.
Oui, mais moi je vais te donner un exemple tout bête. Alors, je ne suis pas correcteur, donc si jamais je dis une bêtise, je pense qu'il y a des gens qui me rattraperont certainement. Entre un sujet et un verbe, on ne met jamais de virgule.
Non, effectivement.
Oui, c'est mieux. C'est
Oui, mais vous
mieux.
imaginez pas le nombre de gens qui le font sans le faire exprès.
Oui, si, je vois. Parce que des fois, moi, ben justement, comme j'ai tendance à relever les coquilles, c'est justement, enfin, moi, je relève les coquilles que je vois. Et oui, je vois ce que tu
Mais
veux dire.
moi, en tant que bêta lecteur, je ne les vois pas toutes, quoi. J'en vois de temps en temps. Alors, quand j'en vois une, je la note. Et puis après, je note sur ma fiche de lecture, je dis, oui, alors ce détail-là, maintenant que je vous l'ai fait voir, hein, vous débrouillez pour le reste du texte, hein, parce que moi, je ne peux pas tout les voir. Je suis malhonnête, hein, je ne suis pas très honnête. Hein, je dis,
Allez, on se débrouille.
parce que l'orthographe, les corrections comme la ponctuation et les choses comme ça, non, c'est pas mon travail.
Bah, officiellement, non, c'est pas le travail d'un bêta lecteur. Moi, je sais que celles que je vois, j'ai tendance à les signaler parce que je sais qu'au bout d'un moment, on voit plus ce qu'on a voulu écrire que ce qu'on a réellement écrit. Et il faut dire ce qui est, tous les auteurs n'ont pas forcément moyen de se payer un correcteur ou même plusieurs correcteurs. Et personnellement, je me dis, ça mange pas de pain. Quand je vois une faute, bah, je la signale. Je n'ai pas la mission d'être exhaustive dans ce que je repère, mais au moins, ça permet de faire un premier nettoyage.
D'autant qu'un auteur ne peut pas être exigeant par rapport à ça. Déjà, c'est bénévole la plupart du temps, la bêta lecture.
C'est ça. Enfin, en tout cas, dans notre cas, moi et à Renaud, on est bénévoles.
Ouais. Alors maintenant, ce que j'aimerais qu'on aborde, c'est les auteurs face à la critique. On a déjà parlé un petit peu, mais la plupart du temps, comment est-ce qu'ils réagissent? Est-ce qu'il y a des auteurs types, des réactions types d'auteurs quand ils reçoivent votre fiche de lecture?
Alors
Moi, j'ai
Moi,
plus des profils d'auteur, mais je crois que chez Renaud, ça a l'air d'être très croustillant, ce qu'il y a.
Non, moi j'ai. D'abord, je dis bien que moi, les fiches de lecture, au bout de 50 pages, j'ai la moitié des livres, enfin, des manuscrits que je reçois, même sur ordinateur, la moitié ne dépasse pas. Je ne lis pas plus de 50 pages. Hein. La moitié des textes sont. Ça va pas, ça va pas, c'est pas possible. Mais attention, hein, je justifie le pourquoi je ne vais pas plus loin.
Oui, j'ai vu tes fiches de lecture. D'ailleurs, c'est une question que j'ai envie de te poser. Est-ce que tu veux, pour que les gens comprennent bien, que je mette en lien une de tes fiches de lecture pour qu'ils comprennent comment tu corriges, en fait, tout bonnement?
Ouais, la première, ça c'est possible. Bon, ben,
D'accord.
les deux, de toute façon, j'ai deux fiches de lecture pour expliquer. Oui, moi ça me dérange pas. Hein, on ne connaît pas le nom de l'auteur, on ne connaît pas le titre du livre.
L'intérêt, c'est que effectivement, tu as l'air un peu
Alors,
entre guillemets vindicatif avec certains
oui.
auteurs, alors que la fiche de lecture que moi j'ai vue, elle est très constructive, c'est intéressant. Et toi, Lynn, donc, t'as pas d'anecdote, j'allais dire croustillante, d'auteurs qui réagissent d'une façon inattendue?
Alors, ça m'est arrivé qu'une seule fois, mais plutôt dans le cadre de l'alpha lecture, donc je ne sais pas si ça ne va pas être un petit peu hors sujet.
C'est pas grave, vas-y, dis-nous.
En gros, il faut savoir que 404 Factory est une plateforme qui organise régulièrement des concours. Ces concours visent à ce que le lauréat soit édité aux éditions 404. J'ai eu une fois, une seule fois, une autrice qui n'a pas apprécié ma démarche parce que, comme je dis, moi, je relève les coquilles, que je vois. Et dans le cadre d'un concours, ça me semble d'autant plus important parce que bah, les auteurs, ils n'ont pas toujours préparé leur texte à l'avance. ils sont dans le rush de faire le nombre de mots qu'il faut pour que leur texte soit éligible au concours. Et donc moi, dans ma tête, je me dis, bah, le jury sera toujours quand même plus content de voir un texte épuré qu'un texte qui ne l'est pas. Et déjà, elle a vu ça comme une démarche infantilisante. C'est pas mon but, hein, je lui ai expliqué, mais voilà. Puis en plus, à côté de ça, il y a un truc, bah pareil, où j'ai fait une erreur parce que j'ai mal paraphrasé un truc. Et en plus, on n'était pas d'accord sur la gestion des informations pour un premier chapitre. Donc, on a essayé de s'expliquer, ça n'a pas été plus loin que le premier chapitre. C'est la seule fois où j'ai dû abandonner un texte. Sinon, globalement, les retours sont plutôt positifs, même si après, il y a malgré tout, je détecte malgré tout des populations d'écrivains qui sont un peu sensibles, avec lesquels il faut faire preuve d'un petit peu plus de compassion, je dirais, à ne pas confondre avec complaisance.
Oui, alors, c'est-à-dire sensible pourquoi et en quoi?
Alors, j'en définis trois. Alors, dans un premier temps, je dirais que la première population que j'estime sensible, ça va être les adolescents. Quand je dis adolescent, je le prends au sens très très large, aussi bien l'âge adolescent que parfois certains adultes qui ont des blessures d'adolescence qui n'ont pas été soignées, on va dire. Et c'est des gens pour qui l'écriture va être un exutoire, mais plus, 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 et qui vont avoir tendance à beaucoup s'insérer dans leur texte. C'est un petit peu ce que Renaud expliquait plus tôt dans l'interview, mais chez les jeunes, c'est vraiment encore pire parce qu'ils ont beaucoup de mal à faire le distinguo entre on critique leurs livres et on les critique eux. Ils se sentent visés en tant que personne, alors que nous, bah, la personne, c'est pas qu'on s'en fiche, mais on n'est pas là pour juger leur personne, on est juste là pour juger leur univers et leur personnage. C'est d'autant plus compliqué quand ça parle de thèmes et de situations un peu dures d'ailleurs, mais c'est très compliqué, par exemple, les gens qui ont connu du harcèlement scolaire, de réussir à leur faire comprendre que, ok, tu as vécu ça, mais c'est pas pour autant que le message à véhiculer, c'est qu'il faut haïr les harceleurs, quoi. Non, mais j'ai réellement eu
Et là,
ça, enfin, j'ai eu
c'est
une
compliqué parce
maîtrise.
qu'effectivement, est-ce que le rôle du bêta lecteur, c'est d'aller juger le fond de l'histoire? Parce que quelque
Moi, en
part,
tout
il
cas,
dit ce qu'il veut.
moi, techniquement, ce que je fais, je dis aux auteurs, moi, je l'interprète comme ça. À toi de voir si tu es à l'aise avec cette interprétation. Si ça ne te dérange pas que les gens puissent interpréter comme ça, tu fais comme tu veux. Sinon, il y a peut-être des choses à modifier. Parce que typiquement, j'ai eu ça, une autrice qui faisait de la high fantasy, où concrètement, en gros, son héroïne est une ado, elle n'a pas de pouvoir dans un monde où tout le monde en a. Du coup, elle se fait un peu harceler et le fait est que, y a plusieurs moments où elle dit, elle déteste les gens qui ont des pouvoirs, machin, ils sont tous méchants, on devrait se venger, machin, et que même les adultes autour de cette héroïne ne la reprennent pas. Et je lui dis, mais toi, à ma place, moi, par exemple, je suis une personne handicapée. C'est comme si tu me disais que j'aurais la légitimité de haïr tous les valides et particulièrement ceux qui ont pu m'embêter à l'école. Bah, non, il faut apprendre à Bon, le harcèlement, c'est important, mais il faut apprendre à il faut en parler, tout ça, tout ça. Mais on ne répond pas à la haine par la haine, enfin, sinon ça n'en finit pas. Et ça, j'avais dû l'expliquer, je ne sais pas comment elle l'a pris, elle n'a pas trop répondu sur ce point précis.
Il faut à certains auteurs, comme parce que ce sont des personnes tout bonnement, hein, il faut à certains auteurs le temps d'acquérir une certaine maturité par rapport à leurs
Ça, il faut
écrits.
digérer. Moi-même, j'ai commencé quand j'étais ado, et des fois, ben. Voilà, je sais très bien qu'on parfois on écrit des choses. Au début, on ne se pose pas de questions. Après, on grandit, on trouve que c'est un peu gênant, un peu cringe, comme diraient les jeunes, plus ou moins. Et quand on grandit, on se rend compte qu'effectivement, on avait peut-être besoin d'un peu plus de recul sur la situation.
Alors ça, c'est le premier type d'auteur. Tu disais que tu en avais des, grosso
Deux autres.
modo identifié trois types. Est-ce que tu veux nous parler des deux autres?
Oui, je vais juste faire un petit disclaimer parce que là, je vais commencer à parler, on va dire, de minorité et donc j'attire l'attention des auditeurs sur le fait que si vous êtes inclus dedans mais que vous ne vous sentez pas visé par, on va dire, la susceptibilité dont je vais parler, c'est OK. Je vais faire des grandes généralités là. Voilà. Donc voilà, je veux juste que ce soit bien mis au clair.
Mais tu fais bien de préciser tout ce que tu as envie de préciser. Après, bon, les gens qui le prendront mal, j'ai envie de dire, bah, vous connaissez déjà.
Oui, mais comme on disait plutôt, les gens ont du mal avec la critique, n'est-ce pas? En gros, dans les deux autres populations que j'identifie, il y a par exemple les gens qui ont ce qu'on appelle des troubles de l'apprentissage ou qu'on appelle les troubles 10. J'ai plutôt rencontré des dyslexiques personnellement, et eux, par exemple, c'est des gens qui ont une forme de susceptibilité, mais je vais peut-être plutôt dire fragilité, qui va être orienté sur quand on leur parle de la forme du texte. Donc ça va être la correction, mais ça va être aussi peut-être parfois la structure des phrases. Parce que, en fait, l'enjeu des dyslexiques, c'est une difficulté à la lecture qui peut se traduire autant par des soucis de associer des lettres ou un groupe de lettres à un son, ou même parfois retrouver la sémiologie d'un mot. Parfois, c'est les deux problèmes qui se croisent. Et en pratique, ça donne des textes où il y a des fautes très régulièrement. Et ça, c'est des gens qui vont avoir du mal quand on leur parle de la forme. Et ça, je pense que ça peut être dû à, pareil, trauma scolaire, parce que, bah, faut dire ce qui est, quand une personne est atteinte d'un handicap, je considère que c'en est un et je le dis sans arrière-pensée, ce n'est pas une insulte ni rien, je suis handicapée, je suis concernée par certains sujets.
Comme ça fait deux fois que tu le dis, tu veux peut-être préciser en quoi enfin, quelle est
Je
la
suis
nature de...
malvoyante.
D'accord.
Je suis malvoyante, donc en gros, ben, pareil, c'est souvent d'ailleurs moi et les dyslexiques, et pas que dans le cadre de la bêta-lecture, on a des points communs, on a des erreurs communes, qui se traduisent notamment sur ce qui concerne la fatigue, la concentration nécessaire à la lecture, et c'est des choses qui se comprennent. Mais c'est vrai que je peux aussi comprendre que des fois, ben, dans le milieu scolaire, à l'adolescence, on se fait un peu abandonner parce que certains profs n'ont pas le temps ou l'énergie de faire ce qu'il faut pour vraiment intégrer la personne. Et du coup, ben, je pense qu'il se passe parfois chez certaines personnes avec des troubles, on va dire, pour la lecture ou l'écriture, que quand on se centre trop sur la forme, même qu'on se centre même ne serait-ce qu'un peu sur la forme, ils le voient comme si on les décrédibilisait, comme si on leur enlevait leur légitimité d'écrivain, alors que ben, on peut être malvoyant, on peut être handicapé, on peut être dyslexique, on peut être dysorthographique, on peut avoir juste une mauvaise orthographe et malgré tout inventer de jolies histoires.
Très clairement. Troisième catégorie d'auteurs, j'ai envie de dire que tu avais identifié.
Là, ça va plutôt concerner, on est encore sur une minorité peut-être dont on parle un peu plus maintenant, qui va être les auteurs avec des neuroatypies. Donc, ces gens qui ont, on va dire, un fonctionnement cérébral qui n'est pas exactement le même que les gens neurotypiques. Donc, ça va être, par exemple, les personnes qui sont atteintes d'autisme, les personnes qui ont un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, ça va être les hauts potentiels intellectuels ou émotionnels. Et j'ai pas beaucoup croisé ça, mais par exemple, une de mes autrices les plus régulières, qui d'ailleurs, je l'embrasse quand elle écoutera ça, elle est HPI et c'est une gestion assez particulière des émotions parce que déjà ce sont souvent des gens qui sont très sensibles donc qui sont souvent à fleur de peau naturelle et ce sont des gens qui généralement ont eu des soucis d'intégration sociale et ou qui ont été un peu marginalisés un petit peu dans leur vie donc déjà il peut y avoir un truc avec la critique qui fait que ça peut être compliqué et justement cette fameuse autrice qui est HPI ben, dans le trouble HPI on distingue souvent le fait de réfléchir très vite et de beaucoup conscientiser les choses, que ce soit par rapport à soi-même ou par rapport aux autres. Donc, par exemple, cette personne, lorsqu'elle va recevoir une critique, d'une, elle va essayer de conscientiser ce que moi j'ai voulu dire derrière. Donc, par exemple, elle va penser que je suis en colère ou que j'ai passé un mauvais moment ou que voilà, je suis contrariée. Et elle va recevoir ça et ça va faire beaucoup d'introspection en elle et ça va être très très rapide. Et donc, du coup, une critique peut lui faire énormément de mal. Quand bien même, finalement, moi, ce n'était pas mon but. C'est juste qu'elle va interpréter, voire surinterpréter des choses. Et ça fait que, du coup, bah, c'est des auteurs avec lesquels, comme je dis, il faut faire preuve d'un petit peu de compassion, de beaucoup de mise au point, de reformulation. L'idée n'était pas forcément de revenir et annuler son propos, mais c'est juste de l'expliciter. J'ai dit ça parce que ça, c'est pas grave. Les accompagner pour un peu dédramatiser les choses. Et comme je dis, avec elles, ça se passe. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire de bêta lecture avec eux. Avec elles, ça se passe très bien. Comme je dis, aujourd'hui, on se considère l'une et l'autre comme des amies. Et d'ailleurs, c'est la personne qui m'a fait le plus de demandes pour des bêta lecture. C'est-à-dire qu'avec un petit peu de temps et d'empathie, tout se passe bien.
Bon, super. Alors maintenant, ce que j'ai envie de vous demander, c'est est-ce qu'ils vous communiquent, ces auteurs, le résultat de votre travail? Est-ce qu'ils ont tendance à vous renvoyer les textes ou à vous demander si vous voulez les relire une deuxième fois pour éventuellement améliorer encore leur travail? Et est-ce que bah, ils ont une certaine forme de reconnaissance? Est-ce qu'ils vous envoient les livres quand ils sont publiés? Est-ce qu'il y a un suivi ou est-ce qu'en général, c'est du one-shot, j'ai envie de dire?
J'ai fait trois bêta lectures qui ont été publiées en maison d'édition. Hein. Je pense que les auteurs m'ont signalé, mais ils m'ont jamais envoyé un livre. Hein. Un livre papier, ils m'ont jamais envoyé un exemplaire.
D'accord.
Je pense que après, c'est normal, ils pensaient que j'allais acheter un livre, que j'allais le commander à la Fnac, quoi. Voilà, C'est pas malhonnête, hein, c'est. Mais non, en général, moi je ne relis jamais. Une bêta lecture, pour moi, le principe de la bêta lecture, c'est la découverte de ce que l'auteur a voulu raconter. Et le lire une deuxième fois, c'est plus. C'est, ça me.
Vous n'avez pas cette curiosité de savoir à quel point ils se sont inspirés de votre travail?
Non, parce que si jamais il y a des choses que je trouvais très importantes à modifier et qu'ils n'ont pas modifié, ça m'énerverait. Je sais pas. Non, mais voilà, c'est. Ah non, mais ah ben,
Peut se
si, si.
comprendre en même temps, vu
Ah
le
ben
temps de
oui, parce
travail,
que.
oui.
Parce qu'il y a des choses. Parce qu'il y a des choses. Je vais vous donner un exemple. J'ai des auteurs qui m'envoient en même temps que leur texte un questionnaire, ce qu'ils veulent que je leur dise. Le questionnaire, c'est simple. Ils disent, quel est le personnage que vous préférez dans mon livre? Mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi? Je suis pas là pour savoir quel est le personnage que moi, Renaud, je préfère. Je suis bêta lecteur. Est-ce que ce personnage est réel? Est-ce que je ressens un personnage réel? Est-ce que c'est les sentiments qu'il a sont compréhensibles? Est-ce que la vie que vous lui donnez, est-ce que les dialogues que vous lui prêtez correspondent à son caractère? Ça, je veux bien le réfléchir dessus et l'étudier. Mais alors, moi, j'ai des auteurs qui m'envoient des questionnaires en me disant, quel est votre personnage préféré? Que pensez-vous de ce choix que j'ai fait? Non, non, moi, et en quelque sorte, ils aimeraient que je leur parle de quelque chose de précis.
Oui.
Or, moi, bêta
Ah, moi,
lecteur.
je comprends l'intérêt du personnage préféré, personnellement.
Ah ben non.
Ah ben, en fait, j'explique. J'explique. Non, mais voilà.
Vous battez
Parce
pas, mais
que je suis auteur.
expliquez-moi.
Parce que personnellement, je suis auteur de fantasy, donc bah, souvent dans la fantasy, on a beaucoup de personnages. Et en fait, ce qui est rigolo avec le personnage préféré, c'est quand on envoyait à plein de bêta lecteurs différents, et l'intérêt, c'est de voir est-ce qu'il y a une tendance qui ressort, ou est-ce qu'en fait, d'une personne à l'autre, il y a plusieurs personnages préférés différents qui ressortent. Et c'est là qu'on voit juste, ça permet d'avoir quand même une notion de bah, est-ce que tous mes personnages sont attachants ou alors est-ce que je me suis peut-être trop concentrée sur un seul et du coup bah, j'ai peut-être trop laissé les autres de côté.
Alors ça, en même temps, c'est quelque chose que je comprends, surtout quand on écrit une saga, parce que quand on va faire la bêta lecture ou quand on va demander la bêta lecture d'un premier tome, par exemple, souvent les personnages secondaires, notamment, on va pas forcément les utiliser sur la totalité de la saga, et avoir des retours pour savoir lequel plaît le plus et éventuellement être orienté sur lesquels on va garder, lesquels on va développer plus, c'est intéressant, et ça peut être intéressant, effectivement, de ce point de vue.
Moi, et puis même moi, ça me fait rire, moi, en tant qu'autrice, de savoir qu'un personnage, il est aimé, qu'un autre, il est détesté. Enfin, je trouve
Oui.
ça très rigolo à savoir. Alors, je comprends que peut-être que bah, pour toi, Renaud, en tant que bêta lecteur, tu ne trouves pas ça drôle à analyser, mais ben, on ne le fait pas pour nous, on le fait pour l'auteur, en fait. Enfin, on aime l'exercice, bien sûr, mais pour l'auteur, ça reste une donnée qui lui sert. S'il le demande, pourquoi ne pas le lui donner?
Ouais, mais je suis. Enfin, moi, pour moi, ça correspond pas à ce que je dois. Ça correspond pas à ce que moi je ressens.
Ça permet à l'auteur de se rendre compte de OK, là j'ai réussi mon effet, parce que des fois il y a des personnages qu'on aime détester, c'est voulu. C'est souvent d'ailleurs l'apanage des très bons méchants, très charismatiques, souvent on aime un peu les détester. Et à côté, il y a des personnages qu'on n'aime pas parce que l'auteur s'est planté en fait. Et justement, c'est pour ça que c'est important de pouvoir faire le distinguo entre les deux.
Parce que pour moi, le bêta-lecteur n'est pas là pour dire voilà mon personnage préféré. Moi, je
Alors, il n'est
m'intéresse.
pas là pour donner un avis subjectif, on est bien d'accord, oui.
Voilà, c'est ça.
D'accord. Mais c'est vrai que pour un auteur, suivant les auteurs, avoir également un avis subjectif peut être intéressant parce qu'on n'a pas affaire à 50 bêta-lecteurs qui vont pouvoir nous donner une idée de ce qu'on a écrit. Autant on a besoin de cette critique qui va permettre d'améliorer objectivement le livre. Autant la subjectivité, elle est intéressante parce qu'elle peut aussi avoir un impact sur la correction objective du livre.
Moi, personnellement, je propose les deux points de vue. Il y a mes réactions très spontanées de lectrice. Je différencie beaucoup mon rôle de lectrice consommatrice et mon rôle de bêta-lectrice. Les auteurs, ils ont besoin. Enfin, pour moi, les auteurs ont besoin des deux, parce que, mine de rien, le but, c'est quand même que le livre, bah, il plaise à des gens qui ne sont pas forcément des bêta-lecteurs. Et voilà.
Bon, en tout cas, ça donne deux avis différents sur la bêta lecture. J'imagine que si j'avais invité d'autres bêta lecteurs, on aurait encore eu des avis
Aurait
peut-être
cinq
encore
avis
différents.
différents. C'est
Voilà.
ça.
Et qui sont d'autant plus intéressants et qui devraient pousser les auteurs, je pense, si on peut faire une conclusion de ce genre, qui devraient pousser les auteurs à ne pas s'adresser qu'à un seul bêta-lecteur.
Ah, il en faut au moins 4 ou 5, hein.
Hein, dans l'idéal. En tout cas, il en faut plusieurs. Petite question avant d'arriver à la conclusion de ce podcast. Quand vos auteurs sont publiés, est-ce que vous êtes crédité pour votre travail au même titre qu'un correcteur ou qu'un illustrateur sur le livre?
Alors moi, dans les 3 livres dont j'ai parlé, qui ont été publiés, il paraît que mon nom apparaît en remerciement.
Oui, c'est une reconnaissance de votre travail, oui. Et toi, Lynn?
Enfin, mes auteurs ont tendance à m'envoyer un exemplaire papier de leur livre, et je trouve ça adorable, parce que moi, ça me fait plaisir d'avoir une pile de livres que j'ai bêta lus. J'ai tendance à être mentionnée dans les remerciements. Souvent, quand ils m'envoient un livre, j'ai ma petite dédicace aussi dedans.
C'est gentil.
Oui, c'est adorable. Je suis très heureuse quand ça arrive parce que honnêtement, j'ai ma malvoyance qui fait que je ne peux pas forcément lire dans un livre papier, mais ça me rend très heureuse en fait de l'avoir cet objet. C'est aussi un petit peu le fruit de mon travail dans le sens où on parlait au début du fait que les livres c'était un peu comme des enfants pour un auteur. Moi en tant que bêta lectrice, je me vois un peu comme une babysitter, si vous voyez, dans ma tête on m'a confié ce bouquin.
C'est mignon.
Alors, on m'a confié ce bouquin, j'ai eu à donner un avis dessus, j'ai eu à participer un petit peu à son élévation. L'auteur a pris ou non en compte ce que je disais, mais d'un côté, c'est pareil, quand vous confiez vos enfants en garderie, des fois, on va vous faire des commentaires en tant que parent, vous n'êtes pas obligé de les prendre en compte dans votre éducation, c'est exactement pareil. Donc, je suis attachée à ces bouquins.
D'accord. Alors, quand même, comme tu as parlé à plusieurs reprises du fait que tu es malvoyante, un certain nombre d'auditeurs peuvent se poser la question de savoir comment tu peux être bêta-lectrice. Alors, c'est histoire qui reste pas sur une incompréhension. Est-ce que tu veux le préciser?
J'ai une vue qui me permet quand même d'avoir accès à ma vision de près. C'est-à-dire que je peux lire, je peux dessiner sous certaines conditions. Par exemple, pour la lecture, j'ai besoin que ce soit très gros. Mais par exemple, je n'écris pas forcément en braille. Je touche du bois, ma vue n'a pas suffisamment décliné pour que je sois obligée de lire en braille. Par contre, je ne vois pas forcément de loin.
Pour donner une information pratique, quand tu dis qu'il faut que ce soit écrit en gros caractères, c'est-à-dire ça correspond à quelle police, par exemple?
Alors, ça dépend. Moi, par exemple, je sais que déjà sur mon Word, je vais tendance à zoomer de façon à ce qu'il n'y ait plus trop les marges sur le côté. Et en ajoutant à ça, je vais écrire en taille 16, voire 18. Et j'ai une police de caractère qui s'appelle Luciole, qu'on peut télécharger gratuitement sur Internet, qui est une police qui a été conceptualisée pour les malvoyants. Et donc moi, généralement, je vais lire ou écrire en Luciole 16. En gros, la
D'accord.
police Luciole, en gros, ça ressemble à de l'Arial. Mais peut-être les lettres sont un chouïa plus rondes, mais surtout les lettres sont un peu plus espacées entre elles et les interlignes aussi.
Je vais le mettre, ça. Je vais faire une recherche et je vais l'indiquer dans la description des vidéos ou dans l'article, parce que je trouve ça intéressant. Si ça peut aider les personnes qui sont dans ton cas et que ça peut les aider, bah, c'est tant mieux, oui. On arrive à la fin de cette émission. Alors je sais que vous écrivez tous les deux. Ce qui serait bien, c'est que vous puissiez m'envoyer des liens vers vos écrits, de façon à ce que je puisse les indiquer en description de la vidéo, pour que les gens puissent voir ce que vous écrivez aussi. Je mettrai dans la description également, dans l'article, un exemple de fiche de lecture de Renaud. Est-ce que tu veux que j'en
Oui.
fasse autant, Lynn?
Après, moi, il faut savoir que mes retours en bêta lecture se font en deux parties, c'est-à-dire que j'ai autant des commentaires que je fais directement sur le texte de l'auteur. Après, j'ai une fiche, mais pour le coup, elle sera vierge, il n'y aura absolument pas d'extrait du texte d'autrui, mais qui,
D'accord.
on va dire, me sert de plan pour mon analyse. Donc, éventuellement, je peux envoyer ça.
Éventuellement, oui, ça peut donner des idées déjà un petit peu plus pratiques aux auteurs de comment vous travaillez et de ce qu'ils peuvent attendre de vous.
Oui, ou plus même si d'autres bêta lecteurs veulent s'en servir pour faire leur plan pour faire des retours, moi j'ai aucun problème.
Ben, c'est très gentil pour eux. Est-ce que
Non,
vous voulez ajouter autre chose à ce que vous avez déjà dit, un conseil complémentaire aux auteurs éventuellement?
je vais dire quelque chose de très bateau, c'est de dire simplement aux auteurs qu'il faut déstresser, tout va bien se passer, et que c'est pas grave si vous n'êtes pas d'accord avec votre bêta lecteur. Comme on l'a dit plus tôt, on a le dernier mot, et qu'en soi, à partir du moment où vous êtes capable de défendre vos idées correctement, ce sera jamais tout à fait faux.
Eh bien, on arrive donc à la fin de ce podcast. Je vous remercie tous les deux d'avoir participé, d'avoir accepté mon invitation déjà, et d'avoir partagé votre expérience avec mes auditeurs.
Très bien.
Plaisir partagé.
Ouais, merci, merci à toi aussi.
Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevealdeman.com, stevealdeman.com, pour y trouver les liens en question, d'autres articles, ainsi que les romans que Rose et moi avons écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro.